Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de vivre ce temps de culte ensemble. On aimerait que ces moments durent et durent encore. Mais voilà, on sait qu'on a un avant-goût ici, dans ces moments, de ce qu'on va vivre dans l'éternité avec le Seigneur. On a commencé il y a 15 jours une série dans les livres de psaumes, des psaumes. Et donc on avait commencé par ce psaume 1, parce qu'on avait vu que ce psaume 1 et ce psaume 2, ces deux premiers psaumes, constituaient en quelque sorte une porte d'entrée pour nous aider à comprendre le reste des psaumes. On a vu que le terme psaume signifie « louange », parce que ces psaumes étaient des prières, parfois des chants qui avaient été écrits et qui étaient chantés par le peuple de Dieu. Mais au-delà de ça, ces psaumes nous pointent vers l'œuvre de Dieu et sont une invitation à nous émerveiller de qui Dieu est, sont une invitation à la louange. Et puis, on avait vu aussi au travers de ce psaume 1 et 2 qu'il nous communiquait en quelque sorte, qu'il contenait en quelque sorte la recette du bonheur. Quand on a vu le psaume 1 la dernière fois, on a vu qu'il commençait par ces paroles « Heureux l'homme qui ». Et puis, on avait vu, on avait anticipé, et on va le voir ce matin, que le psaume 2 se termine par ces paroles « Heureux ceux qui ». Autrement dit, ça forme ce qu'on appelle une inclusion. Donc, on peut s'attendre légitimement à trouver la recette du bonheur selon Dieu au travers de ces deux psaumes. Je vous invite à la lecture de ce psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi donc trame-t-elle tous ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction ? Ils s'écrient ensemble, « Faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. » Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. « Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. » Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde. Laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel. Et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Jusqu'ici, c'était la lecture du psaume 2, un psaume qui a été écrit à peu près 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ et qui a été écrit, qui était peut-être prié, qui était peut-être chanté lors des cérémonies où avait lieu le couronnement d'un nouveau roi pour le peuple de Dieu. Peut-être chantés pour l'intronisation de ce roi de la lignée de David. Mais tout au long de la lecture de ce psaume, il y a une question quand même sous-jacente qui apparaît et qui est en fait, qui est le roi dont ce psaume parle ? Est-ce David lui-même ? On pourrait penser, le Nouveau Testament mentionne que c'est peut-être lui qui est l'auteur de ce psaume. C'était peut-être lors de son intronisation en tant que roi d'Israël. Mais il est difficile de trouver en David et dans les rois de sa lignée quelqu'un qui corresponde parfaitement à la description de ce psaume, et particulièrement le verset 8, où on voit qu'aucun roi n'a reçu en patrimoine, en héritage, tous les peuples de la terre. Aucun roi n'a reçu la domination de l'ensemble, sur l'ensemble des peuples de la terre. On sait que David, dans l'Ancien Testament, était le type, la figure d'un roi à venir. Il préfigurait un plus grand roi que lui. Il est question d'un roi au verset 6. Il est question aussi au verset 7 et 12 d'un fils, donc un roi-fils. Au verset 2, on lit « L'homme qui a reçu son onction ». Le terme pour parler de cet homme qui a reçu cette onction signifie en français « le Messie », c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc ce psaume nous parle avant tout de la personne et de l'œuvre de ce roi-fils, Jésus-Christ. Ce psaume rentre dans la catégorie des psaumes royaux. Il y en a d'autres dans le psautier. Il rentre dans la catégorie des psaumes messianiques qui nous parlent avant tout de Jésus-Christ. Et cela est confirmé quand on parcourt le Nouveau Testament et qu'on se rend compte qu'à ce psaume est cité à de nombreuses reprises dans le livre des Actes, dans la lettre aux Hébreux, dans le livre d'Apocalypse. Et à chaque fois que ce psaume est cité, c'est pour nous parler de Jésus-Christ, le véritable roi. Donc c'est un psaume qui parle de pouvoir et qui nous amène à nous poser la question « qui règne ? Qui est au contrôle ?» Mais c'est aussi un psaume qui nous parle, qui nous révèle qu'il y a une forte opposition contre lui. Et on va voir trois choses dans ce psaume. Tout d'abord, le fait qu'il y a une opposition et que cette opposition est universelle. Et cette opposition est inutile. Et enfin, voir l'alternative à l'opposition qui nous est proposée. Premier verset, il est question d'effervescence. Il est question de complot. Verset 2, de soulèvement, de conspiration. Qui est-ce qui est visé par ce soulèvement, cette effervescence, ce complot, cette rébellion ? Verset 2, Dieu et son Messie, Jésus-Christ. Autrement dit, qui est-ce qui respecte ce roi, ce roi-fils ? Personne. Le texte nous dit les nations, les rois de la terre et les grands. Tout le monde se rebelle contre Dieu. Des personnes qui ont le plus d'influence au peuple, aux nations, c'est-à-dire nous aussi, c'est le propre de chaque être humain par nature. Acte chapitre 4, verset 25 au verset 27 est un premier exemple d'un passage dans le Nouveau Testament qui mentionne ce psaume. Et je fais la lecture. « C'est toi, donc il est question de Dieu, qui a dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations ? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. L'apôtre, les disciples qui parlent et qui mentionnent ce psaume pour faire référence à ce qui a été fait contre Jésus-Christ dans cette tentative de le supprimer et de le mettre à mort. Autrement dit, quand on lit un passage comme ça, on se rend compte que cette rébellion, cette opposition n'est pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier. Quelle est la raison de cette rébellion contre Jésus-Christ, contre ce roi? Le verset 3 nous le dit, la liberté. Nous avons encore aujourd'hui ce désir de nous affranchir de l'autorité de Jésus-Christ. Nous avons l'impression d'être liés, d'être enchaînés et de porter sur nous un petit peu comme un joug. Nous n'aimons pas, nous, les êtres humains, qu'on nous dise ce que nous avons à faire. Nous voulons rester les propres maîtres de nos vies. Nous ne voulons pas de règne d'un roi sur nos vies. Nous voulons être libres. Et c'est ce qui s'est passé dès le jardin d'Éden, alors que l'homme et la femme étaient dans cette parfaite harmonie. Ils ont été questionnés et incités à prendre leur indépendance de Dieu. Nous ne voyons cependant pas qu'en rejetant Dieu, nous nous rendons finalement esclaves d'autre chose dans nos vies. Et que finalement, cette véritable liberté qui nous est offerte, eh bien, ce n'est pas d'être libre de toute contrainte, ce n'est pas d'être libre de faire ce que l'on veut, mais c'est d'être libre de vivre dans cette obéissance à la loi de Dieu, véritable source de bonheur, comme nous l'a révélé le psaume 1. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, que pense Dieu d'une telle rébellion, d'une telle opposition? Les pourquoi qui sont posés dans les versets 1 et 2, pourquoi cette rébellion, pourquoi cette opposition? Il est même mention de complot inutile, nous donne un indice sur la réponse. Cette opposition, cette rébellion est totalement inutile. Et ce sont les versets 4 à 9 qui nous le montrent. Quelle réponse est-ce que Dieu donne à ce désir universel de l'être humain de vivre sans lui? Est-ce que Dieu est impressionné par cette rébellion, par cette révolte? Est-ce que Dieu a peur? Est-ce que Dieu est embarrassé? Est-ce que Dieu est quelque peu gêné par cela? Verset 4, il rit, il se moque. C'est une manière de parler de Dieu selon des termes humains. Tout simplement pour soulever le fait que toute cette opposition, toute cette révolte est complètement ridicule. Il en est même peut-être quelque chose de l'ordre de quelque chose de comique, d'inutile. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de participer à un match de l'équipe de France, mais imaginez que vous vous trouviez dans un stade pour aller voir jouer l'équipe de France et que, avant d'entrer, donc les équipes ne sont pas encore sur le terrain, donc l'équipe de France fait son entrée. Et puis, au moment de l'entrée de l'autre équipe, vous voyez une équipe d'enfants de 10 ans qui viennent jouer contre cette équipe. Alors imaginons que c'est sérieux, ça pourrait être un match caritatif, ça peut être quelque chose de sympa, mais imaginons quelque chose de sérieux. Vous regarderiez les gens autour, vous direz, mais c'est sérieux? c'est une blague, il y a une caméra, il y a quelque chose qui est caché, c'est pas possible. Dieu n'est pas impressionné par cette effervescence, par cette révolte des hommes. Au contraire, au verset 5, ce sont eux, les hommes, qui seront pris d'épouvante le jour où ils entendront Dieu lui-même leur dire en personne, dans une grande colère, « C'est moi qui ai établi mon roi. » Verset 6. Il dira « C'était ma décision. C'était la meilleure décision que j'ai prise pour vous, pour votre bien. Je l'ai décidé ainsi et vous l'avez rejeté. » Ainsi, se rebeller, s'opposer à Jésus-Christ, c'est s'opposer et se rebeller contre Dieu lui-même. Deuxième raison pour laquelle cette rébellion est inutile, cette opposition est inutile, c'est le verset 7. Le roi qui s'exprime dit, c'est maintenant donc le fils, le roi qui s'exprime et qui dit, « Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Donc un roi qui est fils, peut-être pas facile à comprendre pour nous qui vivons aujourd'hui en 2023, mais il faut juste saisir que à l'époque, on était fils à la fois par cette descendance physique d'un père et d'une mère, mais on était aussi fils par le métier que l'on faisait et qui était la majorité du temps le métier similaire à ce que notre père faisait. C'est-à-dire, j'étais fils de boulanger, c'était évident que j'allais très certainement finir boulanger dans ma vie. J'étais fils d'un chef d'entreprise, je devenais chef d'entreprise. Autrement dit, dans le Proche-Orient ancien, quand les rois devenaient rois, ils étaient en quelque sorte adoptés par Dieu et devenaient fils de Dieu par adoption. Non pas qu'ils devenaient des demi-dieux, qu'ils étaient divins, mais en fait, en devenant rois, en régnant sur leur royaume, ils faisaient à petite échelle ce que Dieu fait à l'échelle du monde entier. Vous comprenez donc que quand ces paroles sont appliquées à Jésus-Christ, le véritable Fils de Dieu par excellence, 100% homme, 100% Dieu, il est aussi celui qui était appelé par Dieu à régner sur le monde, sur la terre. Et le verset 8 nous dit, « Il a reçu le monde en héritage. Tous les peuples de la terre lui appartiennent. » Autrement dit, nous sommes la propriété de Dieu. Que cela nous plaise ou non, que nous y croyons ou pas, le monde tout entier appartient à Jésus-Christ. Il règne et dirige toutes choses selon la volonté de son Père. Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11 nous disent « C'est pourquoi Dieu l'a, donc il est question de Jésus-Christ, Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Un jour, nous dit ce passage, que ce soit de notre plein gré ou de force, nous devrons tous reconnaître que Jésus est Seigneur. Il nous faudra tous fléchir le genou devant lui. Si c'est vrai, et nous croyons que la Bible, parole de Dieu, est la vérité, alors cela nous concerne tous, et cela est vrai pour tout le monde. Si c'est vrai, ce qu'affirme ce passage, alors il est essentiel de considérer qu'il y a une autre possibilité une autre alternative à cette rébellion contre Jésus-Christ. Et ce sera les trois derniers versets de ce psaume qui commence par « C'est pourquoi ». Autrement dit, en raison de tout ce qui a été affirmé précédemment, en raison que toute cette effervescence, ce complot est totalement inutile, que Jésus-Christ est celui qui règne parce que Dieu l'a déterminé ainsi, parce que c'est le meilleur qu'il ait choisi pour nos vies. Eh bien, le psalmiste nous place, chacun, devant cette haute possibilité. Il y a cette alternative à cette opposition que nous vivons contre Dieu. Le verset 11 et 12 nous défie de choisir, de faire ce choix, de nous soumettre à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ, de nous soumettre à ce roi-fils. C'est un appel à le servir avec crainte et avec joie. Cette crainte n'est pas une peur de Dieu, mais elle correspond à un profond respect auquel s'ajoute une profonde joie de se savoir en bonne relation avec ce grand roi, avec Jésus-Christ. Comme le psaume 1, le psaume 2 nous rappelle en fait qu'il n'y a que deux chemins possibles. Il y a le bon chemin, celui du bonheur, et puis il y a le mauvais chemin, celui qui mène à la destruction. Le psaume 1 nous a révélé le bonheur de la personne qui est déclarée juste par Dieu, qui trouve tout son plaisir dans la loi de Dieu et qui cherche à y conformer sa vie. La fin de ce psaume 2 nous dit, nous rappelle, que le chemin du bonheur, c'est de faire confiance à ce Fils, de se placer sous la protection de ce Fils, Jésus-Christ, de trouver notre refuge en lui. J'aimerais terminer et vous laisser quatre applications. La première, vous posez cette question: sur quel chemin vous trouvez-vous ce matin? Dans quel camp êtes-vous? Je ne sais pas si vous sentez toute l'urgence qui est présente et qui est retranscrite dans ce psaume. Nous sommes encore dans ce temps de la patience de Dieu. Un temps où Dieu offre encore à chaque homme, à chaque femme sur cette terre, sa grâce. On l'a chanté, on l'a célébré ce matin. Un temps où Dieu est encore prêt à accueillir chaque homme et chaque femme. Il est encore possible, dès aujourd'hui, de changer de camp, de nous repentir de cette rébellion, de nous repentir de ce désir de vivre nos vies sans Dieu et de nous soumettre à son roi-fils, Jésus-Christ, et de lui faire confiance. En fait, vous l'avez vu tout au long de ce psaume nous parle et met en avant la réalité qu'un jour, il sera trop tard. La colère de Dieu qui est totalement juste, qui est cette colère de Dieu vis-à-vis du mal, du péché qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, cette colère va un jour se manifester. Et ceux qui auront persévéré à rejeter Dieu, à vivre sans lui, ce texte nous dit qu'ils seront anéantis, ils seront brisés. Il n'y aura plus aucune chance de salut. Quand nous ferons face à ce jugement de Dieu, il n'y a que celles et ceux qui auront trouvé refuge en Jésus-Christ qui seront épargnés. Il n'y aura pas d'autre alternative. Il n'y aura pas d'autre refuge. Il n'y aura pas d'autre secours en dehors de celui que Jésus-Christ nous apporte. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est ce roi-fils qui va nous secourir ce jour-là? Parce que Jésus-Christ a déjà pris sur lui à la croix la colère de Dieu pour toutes celles et ceux qui l'a mérité, mais qui ont reconnu cela et qui se sont placés avec confiance qui ont placé leur espoir dans ce que Christ a accompli sur cette croix. Deuxième application, on entend souvent en discutant, on peut peut-être même observer cette réalité que plusieurs d'entre nous, nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais ce passage ce matin nous parle de la royauté de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est votre roi ? Est-ce que Jésus-Christ est celui qui règne sur votre vie ? Est-ce que vous venez ici le dimanche matin un petit peu comme le rendez-vous de la semaine, où vous vivez un temps de partage de communion, mais qu'en est-il quand vous rentrez chez vous, tout au long de cette semaine ? Est-ce que Jésus-Christ est celui auquel vous faites confiance pour chaque domaine de votre vie ? Comment est-ce que Jésus-Christ règne sur vos vies, sur nos vies, quand nous sommes au volant de la voiture et que quelqu'un nous coupe la priorité ? Comment est-ce que Jésus règne sur nos vies quand nous sommes en train de peut-être nous disputer au sein du couple et qu'on s'échange des mots qui sont peut-être pas très glorieux ? Comment est-ce que Jésus-Christ règne sur nos vies dans les choix que nous faisons pour notre carrière, pour le lieu où nous allons habiter, pour les relations qu'on veut entretenir avec nos voisins, pour le choix peut-être d'un futur ou d'une future conjointe ? Comment est-ce que Jésus-Christ règne à ce moment-là dans nos vies ? On le sait, on ne vivra pas la perfection de tous les choix. Et il nous arrive tellement souvent, il m'arrive tellement souvent, de faire des choix qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, à la gloire de ce que Dieu voudrait pour ma vie. Et c'est là que c'est beau aussi d'appartenir à ce roi, qui est un roi de grâce, un roi qui pardonne. Et cette possibilité de revenir, quand on voit qu'on n'a pas toujours fait les bons choix, de revenir et de se savoir pleinement pardonné par Jésus-Christ. Mais est-ce que ce matin, la question est là, est-ce que j'ai ce désir que Jésus règne de plus en plus sur ma vie, de lui abandonner chaque domaine, chaque parcelle de ma vie, et particulièrement peut-être que ce matin, le Seigneur vous interpelle sur un domaine dont vous vous dites, celui-là, Seigneur, je ne suis pas prêt à te le lâcher, je veux garder le contrôle de cette chose. Peut-être que le Seigneur vous invite ce matin à abandonner cela à son règne. Une troisième application au travers de ce passage. Il est question des rois de ce monde, il est question des grands de ce monde, de toutes ces personnes en fait qui ont une certaine influence dans ce monde, des personnes, des hommes, des femmes d'affaires, des responsables d'entreprise, nos présidents, nos ministres, nos députés. C'est aussi ces personnes-là qui sont concernées par ce psaume. Je suis parfois surpris, parfois interpellé de voir, et je pense que cela se manifeste de manière toute particulière sur les réseaux sociaux, de voir comment des fois, en tant que chrétiens, nous sommes enclins à salir, à dire des choses vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de nos responsables politiques, qui ne font certes peut-être pas toujours les bons choix, mais il y a des paroles, il y a des messages qui fusent des fois sur ces réseaux sociaux et qui questionnent de se dire est-ce que c'est vraiment notre rôle en tant que chrétien appartenant à ce roi Jésus-Christ ? Et si le psalmiste lui-même invite ces grands de ce monde, ces personnes qui ont de l'influence, à considérer cet appel qui leur est fait de se tourner vers Jésus-Christ. Est-ce que notre rôle à nous, en tant que chrétiens, n'est pas avant toute chose, de prier pour ces personnes, les grands de ce monde, qui ont un pouvoir, qui ont qui sont capables justement d'influencer, est-ce que notre priorité n'est pas de prier pour que le Seigneur les rencontre, pour qu'ils puissent à leur tour fléchir le genou devant Jésus-Christ? Parce que si Dieu est celui qui dirige leur vie, qui prend la royauté de leur vie, eh bien, derrière, toutes les décisions, toutes les choses vont être influencées par Christ et tout le reste va découler. Alors, comme ça, c'est peut-être dit facilement, c'est peut-être pas si simple aujourd'hui que cela. Mais en tout cas, est-ce que la priorité n'est pas de prier pour que ces hommes et ces femmes qui ont du pouvoir et de l'influence rencontrent le Seigneur Jésus et se tournent vers lui? Et enfin, Dieu nous a donné Jésus-Christ comme roi. Il y a un bonheur, on l'a dit, attaché au fait de l'avoir pour roi, de vivre dans cette confiance en lui jour après jour, de vivre dans cette dépendance à lui jour après jour, parce qu'il est un roi qui est fondamentalement bon, qui veut le meilleur pour chacun de nous, qui veut le meilleur pour chacune de nos vies. Et je ne sais pas pour vous, mais je l'ai expérimenté ce matin avec vous. Il y a un bonheur à célébrer, à louer ce roi qui règne. Alors, puisque ces psaumes sont une invitation à louer, à nous émerveiller de qui est Dieu, je vous invite peut-être encore comme une quatrième application à ce passage ce matin, à prendre ces deux chant qui nous parle de la royauté de Jésus-Christ, majesté et Christ est roi.